L'Officine Universelle Bully présente Rituel historique de beauté. Épisode 4. L'entraînement guerrier du souverain Raya. L'explorateur portugais Domingo Paes séjourne à la cour de l'Empire Vijayanagara et assiste au légendaire entraînement du souverain suprême, comprenant massage à l'huile de sésame et maniement du sabre en 1520 dans le sud de l'Inde. Enfin, le voici, le fameux royaume de Vijayanagara, s'exclama le jeune et curieux voyageur Domingo Paes, fatigué mais impatient de voir ce qui s'étendait au-delà des plaines. Du haut d'une colline qui bordait le royaume, il observait une vaste étendue de terre plate qui lui rappelait les plaines de Santarém chez lui au Portugal. Rodrigo, un soldat portugais plein d'expérience qui voyageait avec lui, fixait l'horizon et semblait perdu dans ses pensées. Interrompant sa rêverie, il dit presque avec déférence « J'ai entendu dire que la cité est plus grandiose que Rome et que diamants et rubis sont négociés par plein panier dans les rues de la cité. » Le roi Krishna Devaraya est connu pour être un guerrier invincible. Le vent était fort dans ces régions et la cape de Domingo volta, dessinant dans le ciel teinté de l'aube la silhouette d'un beau jeune homme sur sa monture, se réjouissant des aventures à venir. Nous sommes vers 1520. Ces derniers jours, la délégation portugaise, composée de marchands de chevaux et de quelques soldats, avait voyagé en provenance de Goa, une cité portuaire active dans l'ouest de l'Inde, jusqu'à Vijayanagara, ou cité de la Victoire, en Inde du Sud. Ils étaient en route pour rencontrer le légendaire roi Krishna Devaraya, dit Raya, et signer pour son armée un contrat de fourniture des plus fins chevaux arabes. Bien entendu, il y avait aussi un objectif politique, lui offrir un soutien pour combattre l'ennemi commun, Adil Shah, du sultanat de Bijapur. Domingo attendait avec impatience l'audience prévue avec le roi les jours prochains. Les Portugais ont été les premiers Européens à poser le pied en Inde lors d'une exploration menée par Vasco de Gama, qui s'embarqua de Lisbonne en 1497 sur le São Gabriel avec une flotte de 3 navires, contournant l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance et débarquant sur la côte Malabar aux Indes en mai 1498. Le voyage commença en fanfare. Des coups de feu furent tirés, ancres levées et voiles desserrées. Mais le trajet fut périlleux, avec des orages ravageant les navires, des mutineries en grand nombre. Pourtant, de Gama l'emporta, jetant les mutins au fer. En l'an 1510, les Portugais avaient créé Goa, capitale de l'État portugais de l'Inde, et bientôt, y contrôlaient le commerce des épices, exportant vers Lisbonne poivre, clous de girofle, cannelle. L'aristocratie, la noblesse et l'élite de l'Europe du XVIe siècle réclamaient des épices que l'on employait à des fins diverses pour rehausser la saveur des plats et dans un but médical autant que cosmétique. À un banquet, un hôte européen se devait d'offrir à ses invités un plateau sur lequel étaient présentées diverses épices en signe des richesses à sa disposition. De délicats pomanders ou pommes de senteur, d'or et d'argent remplis de clous de girofle et de cannelle, d'ambre grise et de rose de damas parmi tant d'autres herbes et fleurs odorantes, étaient suspendus à la ceinture ou portés en collier, créant une effluve de parfums agréables. Les épices étaient aussi utilisées dans des recettes de beauté. L'une pour garder la peau claire de pigments comprenait noix de muscade, massie, gingembre et clous de girofle. Une autre pour adoucir les mains gercées employait cannelle, camphre, clous de girofle, muscade et eau de rose. En outre, ayant saisi les ports du Moyen-Orient comme Hormuz et Aden, les Portugais contrôlaient toutes les importations étrangères de chevaux vers Goa, monopolisant le commerce des chevaux vers l'Asie du Sud. Ceci les plaçait en position de force pour négocier des accords lucratifs avec les souverains indiens, qui recherchaient les chevaux de guerre arabes et persans pour leur cavalerie. L'essor de l'influence portugaise en Inde était ainsi étroitement lié à la guerre et au commerce des chevaux. Après avoir voyagé une journée et franchi plusieurs fortifications extérieures, Domingo Paes et son escouade entrèrent à cheval dans la capitale de Vijayanagara. Des gens de toutes sortes s'affairaient, y compris quelques étrangers. Des éléphants déambulaient, le dos drapé de tissus richement brodés. Des rangées de bâtiments magnifiquement conçus et de vastes jardins bordaient la rue. Des musiciens de rue accentuaient l'ambiance exotique et festive. Les arômes de pain frais et de curry provenant d'une auberge en bord de route rappelèrent aux voyageurs qu'ils devaient se reposer et se rafraîchir. Rejoignons notre gîte près du palais, où ont été prises les dispositions pour notre séjour, annonça le chef de la délégation. Enfin installé dans une somptueuse chambre de la résidence réservée aux hôtes de marque, Domingo s'étira sur une couche moelleuse dotée de draps du plus fin coton. Un serviteur empressé apparut bientôt avec de la grenade fraîche et un jus de citron vert sucré. Ah, exactement ce qu'il me fallait. La journée a été très chaude sur la route. Domingo sourit au domestique qui commença à disposer dans la chambre un plateau de cuivre chargé des meilleurs fruits. Raisins, oranges, citrons verts, grenades, pommes jacques et mangues. « Le déjeuner sera bientôt servi, monsieur », lui rappela le domestique. Domingo réalisa à quel point il avait faim. En entrant dans la salle à manger, il vit profusion de spécialités locales dans des cuves en cuivre. Pendant que la délégation s'asseyait autour de la table basse, des jeunes femmes, parées de bijoux, commencèrent le service du dîner en versant des louches de soupe chaude et épicée dans les bols. Elles apportèrent ensuite le plat principal, du riz servi successivement avec une variété de lentilles aromatiques et des préparations de curry de légumes, de volailles, de poissons et de viande. Des marinades de mangue tendre et de pomme jacques furent ajoutées à la palette de saveurs déjà riche. Le plat du milieu était doux. Il comprenait une portion de flocons d'avoine sucrés et de fruits mélangés avec du lait. Pas étonnant que leurs épices aient plus de valeur que l'or chez nous. Une telle chaleur de saveur et d'arôme, s'exclama Domingo. Je me sens comme si j'avais mangé pour plusieurs jours, gémit Rodrigo, assis à côté de lui. À peine avait-il prononcé ces mots qu'arriva à son secours le dernier plat, un verre de petit lait bien frais, mélangé avec des épices spéciales pour faciliter la digestion. « Il me semble que voilà une très jolie dame », plaisanta Domingo, jetant un regard de séduction à l'une des servantes, au délicat visage caché sous un mince voile. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cela, Domingo. Demain, nous rendons visite au palais impérial pour une audience avec le roi. À présent, retirons-nous, car nous devons commencer tôt demain matin », le réprimanda Rodrigo. Les grands voyageurs, qui exploraient l'empire Vijayanagara au XVIe siècle, décrivent l'abondance et le coût bon marché des vivres. Ils l'appellent la cité la mieux ravitaillée au monde. Bien approvisionnée en riz, blé, grains, maïs indien et en légumineuses. Les marchés étaient réputés comme regorgeant d'une grande variété de fruits, accessibles à bas prix. Les traditions indiennes de santé et de beauté prennent racine dans la science ancienne de l'Ayurveda ou la science de la vie, coutume de guérison holistique vieille de 5000 ans. Désormais adoptée dans le monde entier, l'Ayurveda est basée sur la conviction fondamentale que chaque être humain est constitué d'une énergie régie principalement par une permutation et une combinaison spécifique des énergies de feu, d'eau, d'air et de terre. L'équilibre de cette combinaison donne bonne santé et beauté. L'Ayurveda préconise l'embellissement intérieur pour obtenir celui de l'extérieur. Cela implique de s'alimenter selon la saison et la composition de l'énergie individuelle. Il est obligatoire de manger assis dans une posture droite. Ainsi, les repas suivaient un certain ordre, assurant une alimentation bien équilibrée. Les marinades variées à base de mangue tendre, citron, gingembre frais et poivron vert étaient les premiers à être servis lors d'un dîner. Tandis que le riz, les lentilles, les viandes et poissons composaient essentiellement le plat principal. Les sucreries et fruits juteux comme les mangues, les raisins, les grenades, les plantains, les pommes jacques, les figues, les dattes, les pommes et les oranges formaient la partie la plus importante du repas et étaient généralement servis au milieu. Les menus se terminaient par un digestif rafraîchissant. Les princes et les nobles se servaient d'assiettes et de bols en or, mais en général, le plantain et autres feuilles et bols de feuilles étaient à la mode. On utilisait aussi des récipients en cuivre et en terre. Les rituels et formules de beauté étaient également conditionnés par les saisons et les ingrédients utilisés durant les saisons fraîches différaient de ceux employés pendant les saisons chaudes. Un ouvrage vieux de 1500 ans sur l'Ayurveda mentionne des huiles cosmétiques spéciales et l'usage de beurre clarifié pour la beauté du visage. La recette d'un exfoliant pour la figure et son rituel sont décrits ainsi. Prendre des lentilles rouges et les broyer avec du miel. La pâte ainsi préparée, pétrie pendant 7 nuits, donne au visage la splendeur des pétales d'une fleur de lotus blanc. Beaucoup de ces remèdes naturels ont été recommandés pour la poussée des cheveux, la prévention de la chute et du grisonnement prématuré de la chevelure. Rinçage parfumé et fumigation capillaire étaient populaires, ainsi que des poudres de bain aromatiques et déodorants pour le corps. Les hommes et les femmes du royaume de Vijayanagara ont adopté de nombreuses pratiques de ce genre. Le faible son des cloches du temple résonnant quelque part dans la cité réveilla Domingo Paez. C'était aujourd'hui une journée importante. Il était enthousiaste à l'idée de se présenter au palais du roi et de rencontrer le souverain en personne. Il appela Luis, son serviteur. « As-tu sorti ma tenue, Luis ?» Domingo venait juste de finir de se laver et de peigner soigneusement sa courte coupe au carré. Veillant à enduire ses cheveux de pommade parfumée et à mettre de l'amidon sur sa barbe soigneusement toilettée. Luis l'aida à revêtir ses plus beaux habits. La chemise, ornée d'une broderie grise et or, était la favorite de Domingo. Elle lui donnait un air élégant et faisait honneur à sa noble lignée. Le juste au corps noir sans manches était porté sur son pourpoint fendu à la mode, laissant apparaître à travers les fentes sa chemise blanche, froncée au poignet. Son col en brun était doublé d'un tissu de la même couleur. Il plaça sa coque de braguette. Luis apporta ses souliers noirs, larges à l'avant. Il compléta sa tenue avec une cape damassé noire, dans un tissu qui convenait au climat chaud. « De quoi ai-je l'air, Luis ?» demanda Domingo, sachant très bien qu'il faisait figure de gravure de mode. « Tout à fait digne d'un invité du roi, seigneur, sourit Luis. Vérifie si Rodrigo est habillé et prêt à partir. Nous ne devons pas tarder, » dit un Domingo visiblement satisfait. « Tout de suite, seigneur, » répondit Luis en filant voir les autres. Le Portugal au XVIe siècle était très influencé par la mode et les styles de la cour d'Espagne. Au cours des deux premières décennies, l'Italie était considérée comme l'instigatrice des tendances, mais par la suite, ce fut la domination politique et culturelle de l'Espagne qui se refléta dans la diffusion des modes de Madrid vers les cours de l'Europe et au-delà. Les principaux éléments de la tenue masculine à la cour d'Espagne étaient le collant et le pourpoint, qui incluaient éléments rigides et rembourrages, moulant et exagérant le corps et inhibant ses mouvements naturels. Manteaux et capes étaient portés comme vêtements de dessus, une fraise de lin blanc, sa taille variant selon l'époque, et un chapeau complétait généralement le portrait du parfait courtisan espagnol. Depuis le Moyen-Âge, les hommes de la haute société se laissaient pousser la barbe, et les chevaliers cultivaient tout particulièrement leur pilosité faciale en signe de virilité et d'honneur. Chez les hommes plus âgés, cela donnait en plus l'impression de la sagesse et de l'expérience d'une vie. Les hommes utilisaient de la pommade et de la cire pour modeler leur barbe, qu'ils appliquaient à l'aide de tout petits peignes. On utilisait aussi de l'amidon, ils avaient même des appareils pour maintenir en place leur barbe et moustache en dormant. En arrivant aux portes du palais, les membres de la délégation furent dûment comptés et menés à l'intérieur. On leur ferait visiter le palais, puis ils auraient une audience avec le roi. En faisant le tour du palais royal, Domingo Paez ne put s'empêcher de remarquer l'opulence dont il était maintenant entouré. Or, nacre, joyaux et autres pierres précieuses étaient partout, dans les tapisseries, l'encadrement de meubles et le mobilier de maîtres artisans, et même sur les trumeaux. « Penses-tu que le roi est sympathique, Rodrigo ? » demanda-t-il. « J'ai entendu dire qu'il était de nature chaleureuse et accueillante, surtout envers les visiteurs étrangers. » Il est aussi très avisé et perspicace et voit bien l'avantage de notre alliance. Je suis sûre que nous serons bien reçus, comme nous l'avons déjà constaté dans nos hébergements, assura Rodrigo. Bientôt, Domingo vit le roi, vêtu de beaux vêtements blancs ornés de roses d'or avec un collier de diamants inestimable au cou. Il portait une coiffe de brocart de la plus belle soie qui rappela à Domingo un casque de guerre de son Ibérie natale. il les accueillit avec grâce, enthousiasme et curiosité. J'espère que l'on s'occupe bien de vous. Je voudrais en savoir plus sur votre pays et votre roi, dit Raya qui s'adressait en souriant au chef de la délégation. Le roi écouta avec plaisir les histoires sur Dom Manuel et son royaume du Portugal. Puis il offrit une tunique de brocart au chef de la délégation, une coiffe similaire à la sienne aux autres, ainsi que des étoffes richement brodées, un gage d'amitié et de fidélité. Le palais du roi se situait dans le centre royal de la cité, une magnifique structure, divisée en deux parties, l'aile de cérémonie et la partie privée résidentielle du roi. Les reines étaient chacune logées dans leur propre appartement, prévu à proche distance de celui du roi. La salle de réception, dont les murs étaient décorés d'exquises peintures, abritait également le trône du lion. Elle était destinée à l'accueil des visiteurs publics et des vice-rois d'autres royaumes. L'aile résidentielle des femmes, qui pouvait héberger environ 12 000 femmes, logeait notamment les trois reines principales et les 9 autres reines, avec leur personnel et des courtisanes. Aucun homme n'était autorisé à approcher le quartier des femmes. Si le roi souhaitait rencontrer une de ses épouses, un eunuque portait l'invitation à la reine et elle rendait alors visite au roi, entourée de ses gardes et de ses servantes. Des estrades tout autour de l'enceinte du palais étaient dédiées à la danse. Des statuettes sculptées représentant la reine favorite du roi, elle-même ancienne courtisane, qui pratiquait ici sa passion de la danse. Un édifice colossal d'une trentaine de mètres carrés près de l'enceinte royale abritait le bain de la reine. C'était à la fois, pour le roi et ses reines, un luxueux lieu de baignade autant qu'une chambre de plaisir. La salle réservée au bain était entourée de magnifiques couloirs voûtés, dotés d'arches et de balcons ornés en saillies de baies vitrées. Les reines et princesses avaient de nombreuses servantes pour les aider à se baigner et à s'habiller, les ornant de fleurs et de parfums faits d'eau de rose, de musc et de bois de santal. L'escalier menant à la chambre à coucher du roi était orné d'or et le porche entièrement incrusté de canages sertis de rubis, de perles et de diamants. Les barreaux du lit royal étaient parés d'or, le matelas couvert de satin noir avec tout autour une balustrade sertie de perles. Durant les fêtes, le palais entier diffusait la lumière de milliers de lampes en terre cuite et le parfum des fleurs. Le palais abritait aussi le trésor de l'Empire avec diamants, or, argent, joyaux, entreposés en toute sécurité dans une cave souterraine. Dans la soirée, comme Domingo Paez et Rodrigo se promenaient à travers la colonnade du marché, entourés de marchands vendant toutes sortes de diamants et de pierres, de soieries exquises, d'artisanats sophistiqués et même de chevaux, Domingo dit « Le royaume est prospère et je vois une opportunité pour nous d'y établir un bon commerce. » « Je suis d'accord, mais le roi est aussi entouré d'ennemis et il sera certainement satisfait de notre offre de soutien contre Adil Shah. Cet Adil Shah est aussi une nuisance pour notre base portugaise à Goa. » Rodrigo venait d'une lignée de marins. Son père avait pris part au second voyage de Vasco de Gama, aux Indes en 1502. Je me souviens de mon père, évoquant ses aventures en mer. Comment en route, ils attaquaient et coulaient des navires arabes pour sécuriser la voie. Comment de Gama avait mené la conquête des rives de l'Inde. Nous avons maintenant besoin de renforcer notre position dans ce pays. Goa ne doit pas être perdue. Et avec les troupes de Raya contre Adil Shah, nous pouvons régner sur l'Inde pendant des générations. Rodrigo était ambitieux et voulait s'assurer que ce voyage serait un succès, tant sur le plan économique que politique. Domingo inspira profondément, se pénétrant des parfums qui l'entouraient. Les rues de la cité étaient régulièrement arrosées d'eau parfumée. Il pouvait aussi sentir les innombrables fragrances des gens qui passaient. Musc, civette, camphre, safran, bois de santal, eau de rose et bois d'aloès. Partout, les femmes portaient des fleurs dans leurs cheveux, des éventails faits de fleurs. La nuit, elles préparaient un lit de fleurs pour y dormir. Ils pourraient s'habituer à cette décadence. Ismail Adil Shah, d'origine iranienne, était le descendant de la dynastie Adil Shah, implantée sur le plateau du Deccan en Inde. Son territoire bordait à l'ouest Goa, qu'il avait perdu contre les Portugais 10 ans plus tôt, en 1510, et le royaume de Vijayanagara au sud. Malgré une longue histoire de conflits, à la fois avec les colonisateurs portugais et le royaume de Vijayanagara, il restait à l'affût de la moindre occasion de reconquérir son territoire perdu de Goa. Avec ses terres fertiles et ses mines riches en diamants et en fer, le Deccan avait toujours attiré marchands, aventuriers et prédicateurs venant de loin comme de près. C'était un lieu prospère et cosmopolite. Ces sultans étaient des amateurs d'art, de musique, de poésie, de littérature et d'artisanat. Ils vivaient dans l'opulence et le raffinement. Adil Shah avait fière allure. Son habitude matinale consistait en un lavage de dents à l'aide d'un bâtonnet de margousier, arbre médicinal indien, connu pour ses vertus antibactériennes et nettoyantes, et d'une poudre à dents à base de perles moulues, de musc, d'ambre, de bois d'aloès et de camphre. Après le bain royal parfumé, un peu de kohl rafraîchissant appliqué sur les yeux. Il était alors aidé à s'habiller pour la journée. Le kohl, ou crayon noir, provenait de l'ancienne Égypte et de Perse. On l'utilisait à la fois pour embellir les yeux et pour son pouvoir supposé d'apaiser toute maladie oculaire. En Inde, on le préparait en trempant une fine mousseline blanche dans du jus de bois de santal, laissé sécher à l'ombre. Le tissu était ainsi trempé et séché plusieurs fois dans la journée. Après cette opération, on extrayait une mèche de l'étoffe qui était alors utilisée pour allumer une lampe faite de boue et d'huile de ricin. Un récipient de bronze était placé au-dessus de la lampe. On laissait brûler la lampe toute la nuit et le lendemain, on ajoutait quelques gouttes de beurre clarifié à la suie laissée au fond de la lampe. On mettait ensuite ce mélange prêt à l'emploi dans une boîte propre et sèche. Le costume du Shah comprenait un grand couvre-chef, une tunique de mousseline qu'il portait sur un haut ouvert attaché à la taille, une ceinture de soie finement brodée, et pour le bas du corps, un vêtement magnifique glissant sur des souliers brodés d'or. Les costumes des sultans du Deccan étaient inspirés du style persan. Parés de sublimes bijoux d'or, de diamants, de perles et de rubis, le Shah était un symbole royal de pouvoir, de richesse et de distinction. Tout en parrainant principalement la culture, on créditait les sultans de la dynastie Adil Shah de l'introduction du tabac en Inde par l'intermédiaire de marchands portugais qui importèrent la plante d'Amérique. La noblesse fumait à l'aide d'un appareil nommé narguilé, dont la base était faite d'argent et d'or, incrustée d'un alliage de zinc. Les événements se sont précipités en 1520, lorsqu'un officier de Raya, qui avait été envoyé à Goa pour acheter des chevaux aux Portugais, a fait défection avec l'argent pour rejoindre le camp d'Adil Shah, lequel refusa de rendre l'un et l'autre à Raya. Ce dernier saisit l'opportunité qu'il attendait pour en découdre avec Adil Shah. Les Portugais, y voyant leur avantage, garantirent au roi non seulement un approvisionnement des meilleurs chevaux persans, mais aussi un renfort de cavalerie en cas d'attaque contre Adil Shah. Le lendemain remplit Domingo Paez d'excitation pour la journée à venir. Il avait l'honneur d'être autorisé à assister à l'entraînement guerrier du roi. Il avait beaucoup entendu parler de sa vaillance et son dynamisme et était impatient d'observer ce spectacle. À son arrivée aux portes du palais, avant l'aube, il fut salué par le chef de la garde royale, son guide officiel pour la matinée. « Bienvenue, quel plaisir de vous revoir !» S'il vous plaît, n'oubliez pas de rester discret et d'observer le roi de loin, lui rappela-t-il poliment. Oui, bien sûr, acquiesça Domingo avec empressement. Conduit des portes du palais vers la grande cour, Domingo pouvait voir le roi se préparer pour son entraînement matinal. Sa Majesté se lève tôt, avant le lever du soleil, et suit du matin au soir un rituel rigoureux pour rester alerte, mentalement et physiquement. Le roi est très craint et respecté tant par son armée que par ses ennemis, chuchota le garde. Domingo regarda Raya, vêtue d'un pagne, qui se faisait masser avec de l'huile sur tout le corps par un serviteur. Le roi saisit ensuite un récipient rempli d'un onguent ambré et le but d'un trait. « Que boit sa majesté ?» demanda Domingo Paez. « Ah, c'est de l'huile de sésame. Le roi en boit 3/4 de pinte tous les jours avant ses exercices. D'après lui, c'est l'élixir secret de son énergie débordante. Regardez, maintenant il va s'entraîner jusqu'à ce qu'il transpire toute l'huile, dit le garde fièrement. Domingo n'était pas si sûr que l'huile puisse être transpirée, mais il observa néanmoins intrigué. Le roi entreprit de ramasser des poids en terre et commença à travailler ses muscles. Une fois les exercices de poids terminés, il s'exerça au sabre avec un entraîneur, puis s'adonna à la lutte dans l'arène. Voilà beaucoup de sport si tôt dans la matinée, s'exclama Domingo. Mais ce n'est pas encore fini. Le roi va maintenant pratiquer l'équitation jusqu'au lever du soleil, dit le garde. Domingo observa alors Raya qui se dirigeait vers les chevaux. Il fut informé qu'après cela, le roi serait baigné par un religieux et qu'il ferait ses prières matinales, suivi par l'observance des devoirs officiels de sa charge. Le ton du garde s'assombrit lorsqu'il dit « Vous savez que nous sommes en train de nous préparer à attaquer Adil Shah. Notre roi se prépare à ce combat. » Raya était à la fois un général de guerre craint et un amateur d'art, de littérature et de poésie, s'entourant d'hommes instruits et accomplis. Il avait accueilli et créé des festivals de poésie où les poètes de tout le pays récitaient leurs compositions. Il n'avait en outre jamais perdu une seule bataille. La bataille de Reichour entre les armées de Raya et d'Ismail Adil Shah eut lieu en 1520. Connu à juste titre comme le maître des hommes, le roi était réputé pour sa capacité à recruter de grandes armées et des troupes combattantes, grâce à un système efficace de petits seigneurs qui entretenaient dans tout le royaume des troupes dévouées au roi selon ses besoins. On relate qu'une armée de près d'un million d'hommes a combattu aux côtés de Raya, avec plus de 30 000 chevaux et 550 éléphants. Les soldats étaient armés jusqu'aux dents, avec bataillons d'archers, mousquetaires et hommes de troupe qui portaient épées et poignards à la ceinture. Les chevaux et éléphants étaient apprêtés pour le combat. Les couteaux tranchants étaient attachés aux défenses des éléphants. Un chroniqueur rapporta « Le bruit extraordinaire des tambours, des trompettes et des cris des hommes était si fort que même les oiseaux venaient s'échouer dans les mains des soldats, frappés de terreur. C'était comme si le ciel tombait sur la terre. » Un groupe de 20 mousquetaires portugais, conduit par Cristóvão de Figueiredo, le chef de notre délégation, aida à prendre la forteresse de Reichour. Avec ses tireurs d'élite, Figueiredo ouvrit le feu avec ses mousquets longue distance de haute précision, ce que l'armée d'Adil Shah n'avait jamais connu auparavant. Les Portugais couvrant ses arrières, Raya prit la citadelle. Mon ami Rodrigo était un de ses mousquetaires, et c'est ainsi que le maître des hommes a vaincu le Shah. Domingo souriait en voyant l'expression émerveillée de son fils lorsqu'il lui racontait une fois de plus ses exploits en Inde.
Vous venez d'écouter un épisode des Rituels de beauté à travers les siècles par l'Officine Universelle Bully. Retrouvez prochainement une nouvelle histoire qui vous fera voyager dans le temps. Nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.